Rave. Parce que c'est aussi un moyen de se déchaîner, de faire fi un peu de la société actuelle. On fait la fête par-dessus un monde qui part en couille, on pense pas au lendemain, on se retire un peu de tout ça.
Bonjour à toutes et à tous, toujours un bonheur de vous retrouver pour un nouveau numéro de Zoom Zoom Zen, cette émission qui embrasse son époque avec fougue. Chaque après-midi, ici, on zoome sur un mot, une expression dans l'air du temps, et aujourd'hui, c'est un petit événement, puisqu'en 496 émissions, rarement un thème m'aura autant parlé. Oui, on va zoomer sur les rave parties. Pour ce faire, vous allez voir, on va accueillir celui qui est un peu mon double, un fêtard qui vit la nuit, mais également un penseur de la fête qui nous dira en quoi la fête et surtout la rave est éminemment politique. En tout cas, rarement une émission aura été aussi préparée en amont, puisque ce week-end, afin qu'on soit au courant des dernières évolutions de la rave, j'ai envoyé mon auteur Gérald Darnaud à Berlin. Vraie info. Hélas, très vite, la communication a été perdue. Ce n'est que grâce au rapport dressé par la Polizei que j'ai su ce qui s'était passé. Nous sommes le 5 février. Nous sommes donc le 15 février dans une friche industrielle de Berlin-Est. Il n'est que 23h12, mais Gérald a déjà oublié pourquoi il est là. Peut-être les effets de la MDMA ou de la 3MMC ou du crack, ou peut-être tout ça à la fois, avec Ludwig, Heinrich et Gunther, des amis rencontrés dans les toilettes du Berghain. Ils sautent en rythme sur une musique faisant la part belle aux basses. À chaque saut, une de ses dents se déchausse, car il a aussi oublié que l'héroïne et la santé bucco-dentaires ne font pas bon ménage. Au petit matin, il lui en restera deux, une incisive et une molaire. Alors le jeu en vaut-il la chandelle? Les rêves sont-elles plus que des fêtes? Des manifestes politiques? Zoom Zoom Zen, en mémoire des chicots de Gérald, petits anges des mailles, partis trop tôt, c'est parti.
France Inter, Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël.
C'est la pratique, une incisive et une molaire.
Non, c'est pas pratique, il reste que ça. Il peut plus rien bouffer, le pauvre. À la soupe. Bonjour Arnaud Hidelon.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Inter cet après-midi. Arnaud, le jour, vous êtes auteur, journaliste et critique d'art. La nuit, vous courez les fêtes parisiennes. Ces deux vies, vous en avez tiré un livre, Boum Boum, politique du dance floor, sorti mi-janvier aux éditions Divergence. Pour vous, il y a de la politique dans la fête, dans les rêves. Vous allez nous expliquer pourquoi. Juste le temps de vous présenter deux figures de la nuit. L'une faisant d'ailleurs toujours l'objet d'un mandat d'arrêt à Barcelone. Manon Mariani, quant à lui, bonjour.
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 Bonjour à tous.
Bonjour,
hola, chicos.
Hola, chicos. Ah, oui. Ah, effectivement, je vois que tous ces séjours à Barcelone n'auront pas été vains. Nous avons
rien
là
à voir avec Gérald.
Une authentique polyglotte.
Pas mal.
Face à... Oui, la double vanne, c'est difficile à suivre. Oh, je l'ai, malheureusement. Face à vous, Arnaud, lui, il ne savait pas que la fête était politique.
Oula.
Il pensait modestement que pendant toutes ces années, il avait juste pris du bon temps dans le carré VIP du Bayocos, le club d'Alençon, à savourer cette merveille de la mixologie qu'on appelle vodka orange. Alors que non, il faisait acte de militantisme. Quentin, chaque matin, enfin disons, à partir de 11h-11h30, vous partez à la rencontre des passants pour les faire réagir à notre mot du jour.
Vous apprendrez que c'est même sur la pause déj que je vais enregistrer les gens, Mathieu.
Pauvre biche,
d'où le fait que je ne mange pas avec vous dans tous les restos du 16e arrondissement chic. Pas très rave tout ça d'ailleurs. J'ai trouvé des teufeurs, puis des gens qui détestent les teufeurs, puis des fêtards qui ne se revendiquent pas teufeur.
Oula.
Bref, on a parlé de vos fêtes dans la rue.
À vos côtés, Arnaud, ces effluves de choupitos, masquant à peine l'odeur musquée du stupre. Oui, 17 douches n'auront pas suffi pour masquer le fait que la Marianoche a passé le week-end à Barcelone. Elle aussi, Arnaud, c'est quelqu'un de très très politique. Vous allez le voir, la fête et son modus vivendi. Je n'en dis pas plus, si ce n'est alerte aux voyageurs qui se rendraient là-bas. Il n'y a plus une seule pilule du lendemain en pharmacie dans toute la Catalogne. Ni uno más pilula en toda Catalunya. D'ailleurs,
mais
non,
ça va pas.
C'est vous qui nous direz.
Comme ça.
C'est vous. Mais je préviens les gens, les touristes, s'ils iraient sur place, évidemment. Manon, c'est vous qui nous direz tout à l'heure qui est l'autre personne à suivre
maman
sur le phénomène des rave parties.
Une DJette française, nouvelle icône des soirées queer, et ça vous fait rire, hein, vraiment, et qui a fait forte impression pendant les Jeux Olympiques. Ils sont en fou rire, ils sont
mais
tout rouges.
Ce qui est fou, c'est que vous pensez d'abord avec, à votre maman, alors que moi je pense surtout à votre fiancé en fait qui nous écoute.
Mais oui, mais lui il y croit pas.
Il a bien compris.
On embrasse Christine.
Voilà.
Ah, c'est très important.
On embrasse Christine. On embrasse.
Vers 16h30, les amis, la virée berlinoise de Gérald aura-t-elle été totalement vaine ou bien en a-t-il quand même tiré quelque chose d'intéressant pour le quiz? Réponse dans le Zoom Zoom Test spécial secret de Rave Party. Juste avant 17h, cette grosse clubeuse de Rosa Burstein viendra nous rendre visite et nous parler de ses meilleurs trips sous acide. Mais d'abord, Arnaud Hidelon, vous dites que la fête est, je cite, une zone à défendre. Alors est-ce que ça veut dire que la fête est aujourd'hui en danger?
Oui, absolument. Là, on peut voir un certain continuum de répression de la fête. 2003, amendement Mariani en France. 2021, la rave de Lyon avec la force policière de Darmanin. Et puis, dans l'histoire un peu plus longue, 1969, Stonewall. Mm. Et puis, l'Angleterre de Thatcher qui réprime les free parties et les rave parties. Donc oui, il y a un continuum. Et derrière ce continuum, je vois plutôt... la projection par le pouvoir dominant d'un potentiel de déviance, de dissidence, d'insurrection de la fête. On pourra potentiellement revenir là-dessus. Mmh. Et si je parle de zone à défendre, c'est qu'on a beaucoup vu les raves et les free parties avec Hakim Bey comme des zones autonomes temporaires, donc des espèces d'hétérotopie, des parenthèses hors système qui inventent leurs propres règles dans un temps donné, mmh, et qui, dès lors qu'elles sont délogées, vont disparaître pour mieux réapparaître ailleurs, sur un mode plutôt d'apparition, disparition du jeu du chat et de la souris, où on va envoyer des leurres à la police et etc. Mais on ne va pas tenir un territoire. Et ce qui m'a intéressé, c'est un livre de Christine Ross, La forme commune, aux éditions La Fabrique, qui parle, pas du tout de la fête, mais de l'occupation des aéroports au Japon, du plateau du Larzac et de la ZAD Notre-Dame-des-Landes, et qui nous dit, finalement, c'est une communauté qui va... que rien ne lie au départ, si ce n'est un militantisme ou des valeurs, qui, pour défendre un territoire et défendre un territoire sur le temps long, va inventer ses modes de vie, ses pratiques, ses modes d'organisation, finalement, sa gouvernance. Et à terme... Christine Ross nous dit, on en vient à défendre autant le territoire que le mode de vie inventé pour défendre ce territoire. Et il y a quelque chose dans la fête qui joue à cet endroit-là. La fête, c'est un territoire, c'est un espace-temps, c'est une ambiance, mais aussi un mode de vie qui s'instille, qui s'invente dans la fête. Donc, la fête comme zone à défendre.
Et donc, la fête est politique. CQFD, lui, il ne connaît les rêves parties qu'à travers la comédie musicale Cendrillon.
Peut-on m'expliquer ce qu'est une rêve partie?
Wow.
C'est magnifique, écoutez bien, la rime.
On est en transe et on dit qu'on y prend de l'ecstasy. De l'ecstasy, ça je te l'interdis.
La quintessence de la comédie musicale française, on l'a oublié, Cendrillon, et c'est dommage.
Qui a produit ce truc?
Alors ça, je n'irai pas jusque-là.
En tout cas, Mathieu la connaît par cœur, précisons-le.
Oui, c'est vrai, j'adore.
Hein, j'adore.
Et peut-être même que j'ai joué dedans. Oh. Cyril Lacarrière, bonjour.
Bonjour Mathieu Noël.
Votre connaissance des rêves parties étant, disons, minimaliste, mais justement, vous êtes renseigné et vous êtes désormais en mesure de nous dire les rêves, d'où ça sort.
Avant, bien avant les chants remplis de zadistes qui jouent du diabolo en se trémoussant sur du Benny Benassi, il y avait des soirées underground du côté de Chicago et de Détroit. Et c'est là qu'on a assisté à la naissance de la house et de la techno. Nous sommes à la fin des années 70 et c'est une manière, pour eux, d'échapper à la déferlante du disco. Une contre-culture qu'on retrouve aussi, évidemment, en Angleterre à la même époque. Et si la musique électro se ferait un chemin dans ces fêtes clandestines, le punk y fait aussi fureur. Et c'est en tout cas bien en Angleterre que les premiers rêves voient le jour, notamment dans des entrepôts à un moment donné, des champs ou des hangars. Un des genres qui fait danser ces rêveurs, c'est l'acide. Alors pas l'acide qu'on avale, mais l'acide house.
On embrasse Étienne Bertin qui a réalisé ce mix.
L'autoroute du tempo. Un exemple avec cette acid track du groupe Future, nous sommes en 1987.
Et c'est à cette époque, Cyril, qu'apparaît un été de l'amour.
Exactement Mathieu, cet été où on s'est rencontrés bien sûr.
Non.
Le second Summer of Love, 1988-1989, les rêves explosent, on écoute de la house et on consomme de l'ecstasy. Panique générale dans la classe politique anglaise. En 1994, le gouvernement anglais adopte le Criminal Justice and Public Order Act qui interdit les rassemblements avec de la musique au rythme répétitif. Vous imaginez un peu l'ampleur du phénomène et de la panique politique. Les rêves envahissent ensuite le reste du continent européen, le plus souvent dans le dos des autorités qui pourchassent les rêveurs, nouveaux ennemis publics. Alors, qu'est-ce que ces rêves disent du lien entre la fête et la politique, entre la fête et le refus de l'ordre établi, entre la fête et l'envie d'en découdre? La fête est-elle politique? Eh bien, on a une heure pour répondre à cette question.
Merci Cyril. Arnaud Hidlon, les rêves, est-ce que c'est vraiment le symbole des fêtes politiques telles que vous les concevez?
Oui, en tout cas dans le livre. Alors j'utilise deux termes, rave party et free party.
Aujourd'hui, c'est la différence.
Justement, aujourd'hui, c'est pas des synonymes, mais à l'époque, c'était plutôt des synonymes. Mmh. Et quand il y a eu cette criminalisation, justement, dont vous parlez en Angleterre, puis en France avec l'amendement Mariani, disons qu'il y a eu deux courants, les free parties qui sont allés peut-être dans d'autres espaces, d'autres typologies d'espaces, pour placer sous le radar, rester clandestine, etc. Et les raves qui ont embrassé un système si ce n'est légal, en tout cas un peu plus proche du système, un petit peu moins dissident. Et justement, je travaille un petit peu ces deux typologies pour montrer comment la Free Party a conservé une forme d'organisation politique, on pourrait y revenir, et comment la Rave Party, certaines Rave Party, ont été dévoyées par un marketing ou un devenir ambiance.
Non, mais j'allais dire, pourquoi une fête serait toujours politique? Est-ce qu'une fête, c'est forcément contre le pouvoir dominant? Il peut y avoir des fêtes apolitiques, des fêtes pour juste le plaisir de la fête, non?
Ouais, absolument. Il y a autant de fêtes que de contextes, que d'endroits sociaux, que de moments, que de rituels à célébrer. Et moi, je m'éclate dans des vernissages, je m'éclate dans des fêtes de Noël, je m'éclate...
Fêtes de Noël?
J'entendais parler de... Ouais, c'est dur, mais ouais, non, ça va, ça va dans ma famille. Et alors, il y a deux choses qui sont intéressantes. Moi, dans le livre, je cherche pas à dire qu'est-ce qui est la vraie fête et qu'est-ce qui est pas la fausse fête. Et c'est pas la dimension politique qui vient me dire qu'est-ce qu'est une vraie fête. En revanche, ma recherche dans le livre, c'est plutôt de se dire, ok, il y a un slogan, un espèce de doxa, un imaginaire collectif aujourd'hui qui dit la fête est politique. Ok, super, super intéressant. Et mon livre d'ailleurs part d'un graffiti que j'ai trouvé à la station Gardier-Mines sur les deuxièmes toilettes à la gauche en 2017. J'étais peut-être très haut moi aussi. Et c'était écrit la fête si elle n'est autre que célébration d'une puissance collective n'est que pure mascarade. Et je me suis dit, waouh, trop bien, comme in keep it, comme chose à explorer dans ce livre. Et j'avais envie d'y répondre positivement. Sauf que quand on fait des recherches et qu'on a une petite éthique de recherche, on se dit, ah ouais, pas si facile que ça. Ouais. Et toute la première partie du livre, c'est, bah non, en fait, la fête n'est pas politique au sens où on l'entend. Elle n'est pas subversive, ou elle peut être transgressive, venir explorer, scénariser des formes de transgression, mais sans pour autant subvertir sur le temps long l'ordre dominant. Et si on regarde en fait dans une histoire plus longue, avec le carnaval au Moyen-Âge, etc., la fête, elle est essentiellement politique, mais on pourrait même dire la fête est de droite.
Dans le sens... La fête est de droite. Scoop France Inter.
Scoop France Inter, dépêchez, voilà, désolé. Et parce qu'elle vient consacrer un système établi, parce qu'elle vient scénariser la déviance par rapport aux normes sociales établies, mais en programmant un retour. Et du coup, c'est plutôt une fonction de soupape sociale de dire, regardez comment ça, quel chaos ce serait si on suivait la fête trop longtemps.
Et donc, c'est bien que ça se termine.
Et c'est bien que ça se termine.
Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël sur France Inter.
Des zadistes sous extasie pour notre rédacteur en chef, des fêtes politiques qu'il faut défendre pour notre invité. On zoome sur les raves cet après-midi avec vous Arnaud Hillon, grand fêtard et auteur de Boom Boom, politique du dance floor, paru aux éditions Divergence. Arnaud, je pensais que les raves, moi, elles étaient un peu passées de mode. En fait, elles reviennent en force. Mais c'est quoi la différence entre une rave de 2025 et une rave de 2005, par exemple? Ça a beaucoup changé?
Une rave de 2025 et une rave de 2005. Pas forcément, ça a sans doute changé depuis les années 90 dont on parlait tout à l'heure et le Summer of Love. En même temps, je sais pas, je naissais à ce moment-là.
Nous aussi. 91,
ouais, j'imagine. Mais j'ai lu, j'ai regardé des vidéos, il y a beaucoup de récits de fêtes et de ces années-là. D'ailleurs, qui participe aussi à un espèce de fantasme et d'imaginaire de ces raves, de ces grandes fêtes. Et moi, la première fois que je suis venu danser dans une rave party, je suis autant venu danser sur un dance floor, sur de la musique avec des personnes, que je suis venu danser sur des symboles, sur des imaginaires, sur des constructions sociales et symboliques, et qui ont participé de mon expérience de ces rêves-là. Est-ce qu'il y a grand-chose qui a changé depuis 2005-2024? Je pense qu'il y a eu des cycles. Il y a des moments où la rave se réfugie un petit peu plus dans des espaces clandestins, il y a des moments où elle devient un peu plus mainstream, il y a des moments où il y a des organisatrices de rave qui commencent à faire absolument n'importe quoi, ça c'était il y a 6-7 ans, à organiser des rave parties dans des squats de migrants à Vitry-sur-Seine, par exemple, et donc ça a été énormément couvert par la presse, et ça a amené à la fois à une régulation de la part des pouvoirs publics, mais aussi un désamour du public par rapport à ces espaces-temps festifs.
Mais est-ce qu'aujourd'hui, rave est pas devenue une marque grand public. J'entends par là que sur les réseaux sociaux, on voit quand même beaucoup de jeunes qui font des raves, qui disent où sont les lieux. Enfin, c'est vraiment quelque chose. J'ai fait une rave ce week-end.
Absolument. Il y a même sur Asos une petite catégorie rave, si on veut s'habiller en raveur.
Asos, c'est un groupe qui vend des vêtements.
Des vêtements, oui.
Je précise pour certains de nos auditeurs.
Et oui, pour moi les rave parties aujourd'hui, c'est devenu... pour une certaine frange d'entre elles, en tout cas, c'est devenu un argument marketing. De la même manière qu'aujourd'hui, certaines soirées vont adosser un espèce de label soirée queer, mais en dépolitisant complètement la chose, aujourd'hui, rave party, ça devient un argument.
C'est comme soirée disco dans les années 80, quoi.
Oui, mais en fait, ça promet une certaine expérience musicale, ça promet une certaine typologie de lieux et des codes sociaux. Sauf que, du coup, la rêve, là, devient un décor, devient complètement une ambiance. Mmh. Mais toutes les formes organisationnelles, toutes les valeurs politiques, justement, dont on a parlé, oui. Et on pourra parler par la suite, sont évacuées, ou en tout cas sont esthétisées. Et on dosse davantage dans des codes, dans des imaginaires, dans des souvenirs, que dans une volonté de transformation sociale. Et il n'y a plus vraiment transgression, si ce n'est une espèce de dissidence scénarisée.
Vous dites qu'une fête peut être mise au service des luttes sociales. Qu'est-ce que vous pensez des soirées organisées en non-mixité, réservées aux femmes, pour éviter les agressions?
Ouais. Alors, mise au service, je pourrais revenir là-dessus. Pour moi, la fête, elle est pas transitive. On n'a pas à la mettre au service de quelque chose, mais elle peut participer à se connecter et à être proche, notamment des luttes contemporaines. Et sur la question des espaces en non-mixité, dans le livre, c'est une partie entière sur la fête comme cabane, la fête comme refuge, la fête des fêtes, notamment en non-mixité, en tout cas des fêtes communautaires qui permettent à certaines communautés de danser ensemble, de célébrer leurs identités, d'être enfin en sécurité.
Ça veut dire qu'on ne sait plus faire la fête tous ensemble.
Oui, c'est vrai ça.
Ouais, alors on pourrait dire ça, mais moi je dirais tant que le patriarcat existe, et tant que les violences systémiques...
Ah oui, donc, pour un petit moment encore alors.
Tant que les violences systémiques et les rapports de domination, et les violences genrées, notamment existent, et ça il y a plein d'études là-dessus, notamment l'association Consentis qui nous montre qu'aujourd'hui il y a 70% de femmes qui se disent avoir été agressées, ou harcelées sexuellement, en fait, et que 53% d'entre elles ne se sentent pas en sécurité si elles sont seules dans un espace festif.
Et les organisateurs font rien?
Si, il y a des formations, il y a des centres de réduction des risques, il y a une prise de conscience des violences sexistes et sexuelles. C'est un travail au long cours, mais en même temps, le constat, il est là. Et à mon sens, c'est important, ces safe spaces, ces espaces en non-mixité, qui permettent à certaines personnes, tant que le monde est traversé, parce que la fête, elle est pas hors du monde, tant que la fête est traversée par ce monde et ses rapports de domination, que des personnes puissent danser, célébrer, laisser leur corps exulter en toute sécurité.
La fête comme une safe place, finalement.
La fête comme une safe place. Après, j'aimerais peut-être apporter autre chose que j'amène dans le livre, le brave space.
Le brave space,
c'est un concept de Bell Hooks, autrice féministe afro-américaine, et qui nous dit, qui amène ce concept en disant, les safe spaces, on en a besoin. Mais on a besoin aussi d'espaces peut-être un peu plus ouverts, peut-être qu'ils prennent le risque de l'extérieur, peut-être qu'ils viennent travailler cette membrane un petit peu compliquée avec, justement, ce monde traversé par des rapports de domination. Et moi, ça a résonné assez particulièrement avec les dernières élections européennes, la dissolution, etc., de me dire, mais en fait, on est dans un moment de crise démocratique et on est dans un moment où on n'a plus aucun espace de débat avec des personnes qui sont autres que nous, qui n'ont pas les mêmes avis politiques que nous, etc. Et si, bien sûr, on se replie sur des safe spaces, et s'il n'y a que des safe spaces, bah c'est un repli identitaire dans tous les sens.
Il faut les deux.
En revanche, si on a un safe space et des brave spaces, on peut travailler ces espaces de débat.
Face à vous, Arnaud, lui, il ne fait pas la fête. Il est l'esprit de la fête incarné. 10 ans qu'il écume les mariages. Il est mobile sur toute la région Alençon, Flers, Putange. Son Kangoo fièrement siglé, lui, Entertainment, contient des trésors, comme l'exceptionnel Barachotte Mobile, 17e au concours Lépine 2022.
De mon ami Polo.
De votre ami Polo, qu'on embrasse. Quentin, forcément, dans la rue ce matin, vous saviez de quoi vous parliez, en demandant aux gens s'ils avaient le sentiment que leur fête avait un sens politique.
Et je commence avec ce jeune homme. Côté cheveux, joli dégradé sur les côtés, quasiment un mulet derrière, boucle d'argent au lobe droit. Il est dans l'immobilier, mais aussi coach sportif. On essaye, lisez-moi ceci.
Rave, c'est une grosse soirée, avec beaucoup de drogue en général, et beaucoup de monde, musique électronique, voilà.
Est-ce que vous avez fait des raves?
Oui, beaucoup. Surtout il y a quelques années, maintenant un peu moins.
Alors, racontez-moi, Adrien, vos souvenirs de rave.
Alors, c'était une première rave, Doc Pullman, je pense. C'est des grosses raves, en fait, dans des... je crois que c'était des hangars, dans le nord de Paris.
Parle-moi un peu de ça.
J'ai vu des gens ken dans les toilettes, devant tout le monde, ou dans la fosse, ou sur les bancs. Ouais, plusieurs fois même.
Il me confie qu'il n'y va plus. En 2025, les raves, c'est devenu trop grand public, trop mainstream. Ah. J'arrête Sophia, la trentaine, data analyst. Pour elle, c'est quoi une rave?
C'est des fêtes un peu énervées qui durent très longtemps, en Bretagne souvent. Mais j'avais vu cette fête qui avait dégénéré pendant un nouvel an et qui a duré 4 jours. C'était dans les titres des journaux.
Oui, mais elle a raison, on en parle souvent. Un champ, on pose un sound system et on squatte un champ, le champ d'un agriculteur pendant plusieurs jours. Qu'est-ce que ça raconte pour elle?
Parce que c'est aussi un moyen de se déchaîner, de faire fi un peu de la société actuelle. On fait la fête par-dessus un monde qui part en couille. On pense pas au lendemain, on se retire un peu de tout ça.
Je vois cette petite dame maintenant dans son manteau rouge qui attend devant une boutique. Comment s'appelle-t-elle ?
Paulette, pardon.
Vous avez quel âge ?
85.
Oh, vous avez un bel accent, vous.
Merci.
Vous venez d'où ?
Ah, ça, alors, je suis de France, oui. Mais dans la Mayenne.
Je connais bien.
C'est vrai ?
Je suis né à Alençon.
Eh ben, moi aussi.
Ah, un accent comme ça, je le reconnais direct. Toutes les copines de ma grand-mère parlaient comme ça. Alors, le mot du jour de Zoom Zoom Zen ?
Oui, rab. Eh ben, rêve parti. Ah. Eh ben, ce sont des lieux où des jeunes se rassemblent, il me semble, qui font la fête. Jusqu'à épuisement.
Jusqu'à épuisement. Alors, qu'est-ce qu'elle en pense, Paulette ?
Alors, moi, je dis que c'est dommage. Parce que ces jeunes ont besoin de se distraire, c'est vrai. Mais pas dans ce délire d'alcool, de drogue et tout ça. Parce que c'est ça, en fin de compte, ça se termine comme ça. Ah oui, je fais encore la fête, moi.
Mais je ne peux pas vous emmener dans une rêve partie avec moi ?
Non. Si je suis couverte avec vous, il n'y a pas de souci. Mais je ne veux pas être lâchée parmi tous ces fauves.
Parmi tous ces fauves. Sa fille, la petite soixantaine quand même, sort d'une boutique et nous donne son avis.
Ouais, ça fait peur, il y a une dimension qui fait peur, tout simplement. Voilà, on connaît mal, on n'en voit que ce que vient diffuser les chaînes d'infos. Et on sait aussi très bien que là, pour le coup, c'est politisé. Parce qu'en fonction de la chaîne d'infos, il y a un regard politique qui est derrière. Ça, on est d'accord, voilà. Donc,
c'est en ça que c'est
politique, pour moi, voilà.
Je vois ce jeune homme maintenant qui s'apprête à descendre dans une bouche de métro. Bonjour.
Bonjour.
Quel est votre prénom à vous ?
James.
Vous venez d'où, James ?
Je suis anglais, mais je suis né à Paris.
Est-ce que pour lui, la fête devient politique dans une...
rave. Oui, surtout. Dans des situations, ça peut être considéré comme une forme de proteste. Dans une société capitaliste, on est un peu conditionné à vouloir travailler et vraiment à devenir des outils de la machine. Mais c'est... Bah, par exemple, à une rave, on ne dépense pas, on ne produit pas, c'est plus vraiment du plaisir humain.
C'est anticapitaliste de faire une rave.
Oui, vraiment.
Ma dernière rencontre, c'est Camille, 38 ans, parisienne jusqu'au bout des ongles, à la tête d'un concept de boulangerie.
Rave. Je vois, là, j'ai une image de bois, là. Un bois avec des jeunes habillés en sac poubelle.
Enfin, je sais pas, les gens sont défoncés, quoi. C'est loin, c'est sale. Il y a les gens dans la boue. Wow. On pisse par terre, ça me dégoûte, quoi.
Alors, la fête a-t-elle un caractère politique ?
Non. Je pense qu'on politise tout. Moi, j'ai fait énormément la fête. On politise à chaque fois un truc. Il n'y a rien de politique à faire la fête, hein.
Une bonne fête, c'est quoi pour vous ? Comment vous faites la fête aujourd'hui, en 2025, à 38 ans ?
Gentil, je la fais plus, j'ai honte.
Oui, c'est ça le problème. Avant de la laisser filer, le titre pour terminer une bonne fête.
Il mio refugio de Richard Cochante. Toujours.
Pour terminer la fête ?
Ouais, tous ensemble, les bras dans les bras. Est-ce que je peux rajouter un truc ? J'ai découvert la semaine dernière, c'est pas une blague, hein, qu'en fait, votre nom de famille, c'était lui.
Mais fallait le dire, vous étiez auditrice.
Bah, je suis auditrice de 5h du matin à 9h quand je pars, et après j'écoute en replay.
Quand est-ce que vous venez faire la fête avec nous ?
Ah, ça, quand vous voulez, y a pas de problème.
Bon, alors on verra peut-être la playlist. Mais d'ailleurs,
ou alors le type de drogue, parce que
pour terminer une soirée sur Richard Cochante, est-ce que c'est politisé ?
Arnaud Hidlon, est-ce que Camille, elle a pas un peu raison sur un point, en tout cas sur le fait qu'on cherche à tout politiser tout le temps, même la fête ?
Et d'ailleurs, il y a beaucoup de teufeurs, teufeuses, de gens des free parties et des rave parties qui refusent cette politisation en disant « Nous, c'est un espace potentiellement de renouveau social, c'est un espace de sensations éprouvées collectivement, mais c'est pas un espace qu'on a envie de politiser. » Et arrêtons aussi avec ces discours qu'on vient leur poser dessus. Alors moi, ce qui m'intéresse dans le livre, c'est pas de politiser ou de repolitiser la fête, et j'ai pas du tout envie d'amener des slogans, des banderoles, et ou de surconscientiser, et justement presque de brander demain sur la prochaine fête que j'organise au Sample, cette soirée est politique par rapport à une autre. Par contre, ce qui vient m'intéresser, c'est... comment, et après cette première partie où je me rends compte qu'en fait, la fête, elle est politique, mais plutôt au service du pouvoir, comme j'expliquais tout à l'heure. Moi, ce qui vient m'intéresser dans les trois parties du livre qui suivent, c'est quelles sont les résurgences politiques à l'oblique. Si on part du principe que les fêtes, elles sont quasiment dépolitisées, ou en tout cas au service du pouvoir dominant, qu'est-ce qu'il résiste de politique, d'espace de transformation sociale en ces fêtes ? Le premier gros chapitre, c'est les fêtes comme espace de déconstruction, de désapprentissage par rapport au genre, à la sexualité, de déconstruction. Et moi, j'ai été traversé par la fête, et ça a été comme une épiphanie, à mon sens, presque comme une renaissance, où je me suis rendu compte que d'autres corps, d'autres identités existaient, que tout mon construit social social qui était le mien était ultra borné avec des petites œillères et c'est la fête qui a fait éclater ça.
Mais elle n'a pas retrouvé une part de politique après le Covid aussi, la fête ? Parce qu'on a, été privé en fait, de teuf quand même pendant des mois.
Ouais. Alors, hyper intéressant sur le Covid comme moment, dans les, je parle de la fête traversée par différents moments sociaux. Les attentats, le Covid et MeToo. Le Covid, à mon sens, il est intéressant à deux endroits. La première, c'est que les professionnels de la fête, et notamment Technopole sur les musiques électroniques, se sont posé la question de dire, enfin, on a du temps. On a du temps retrouvé, comment on peut réfléchir au travers de nos industries et se poser enfin des questions sur les violences sexistes et sexuelles, sur le développement durable, etc. C'était des moments incroyables de réflexion où il y avait des groupes de travail, des guides de bonnes pratiques, un livre blanc que j'ai contribué à écrire. Sauf que le lendemain, quand les clubs ont réouvert, fragilisés par la crise, c'était retour au business as usual. Pire qu'avant, comme en 40, et on avait oublié ce petit
beaucoup
livre blanc.
Beaucoup de boîtes ont fermé aussi, il faut le préciser.
Oui, après. Oui, complètement. Et après, par contre, il y a quand même des chantiers qui continuent. Et après, je pourrais revenir sur le Covid, mais je crois...
Non, mais c'est juste que là, on parle de... Quentin. La fête est un peu capitaliste. Vous dites c'est reparti comme avant, etc. James nous dit, dans une rave, on ne produit pas, on ne dépense pas. C'est l'anticapitalisme absolu. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ?
Alors, il y a un auteur qui s'appelle Duvigneau qui dit un mot très beau, la fête, c'est un don de rien. Dans le monde capitaliste, on donne pour recevoir, on investit. C'est un don contre don. Et la fête, on n'attend pas de dons. Florian Guettet, qui est philosophe et critique d'art, qui s'intéresse beaucoup à la chorégraphie, écrit la postface de ce livre en parlant justement de la fête comme épuisement. Et Paulette parlait de l'épuisement.
Ah oui, c'est, oui, cerné.
Comme épuisement, comme fatigue souveraine, et qui dit finalement, on vient se vider de nos forces productives. C'est presque un acte de résistance, mais infime. Nous sommes des larves, nous sommes des bons ou des bonnes à rien. Et le lundi, le mardi, le mercredi, nous sommes vidés de nos forces productives, de nos forces de travail. Moi, la petite chose que je rajouterais, c'est oui, mais en se disant ça, on peut dire exactement la même chose de, en fait, si on se vide de nos forces, on se vide aussi de nos forces de transformation, de nos volontés de changer le monde, de nos volontés de militer, etc. Là, il y a un petit truc à craquer, mais Florian n'est pas là, mais il répondrait mieux.
Il n'est pas là, profitons-en.
France Inter. Zoom Zoom Zen.
À l'orée d'un 496e Zoom Zoom Test, qui sera probablement celui qui a coûté le plus cher à mon auteur Gérald Darnaud, puisqu'il y a perdu 17 dents et 2 ans d'espérance de vie, j'aimerais saluer l'abnégation d'un homme qui, pour mieux nous informer sur le phénomène des rêves et de la fête, a choisi de passer tout un week-end à Berlin, au cœur du réacteur. Il ne reviendra en présentiel au bureau qu'après les vacances d'hiver, mais il a tout donné. Gérald, même si avec tes acouphènes tu ne peux pas l'entendre, ce quiz t'est dédié. Un quiz que j'ai choisi d'intituler aujourd'hui « La rave party à travers les âges ». Car oubliez ce que disent les internets sur l'origine des rave parties, oubliez même ce que Cyril vous a raconté dans son Douce Assort, car l'origine des teufs clandestines est beaucoup plus surprenante que tout ce que vous pouvez imaginer. Manon, Quentin, parmi les propositions suivantes, laquelle est vraie ? On a retrouvé en Dordogne, sur un site paléolithique, des peintures rupestres représentant des scènes de danse collective. Le premier technival a eu lieu à Strasbourg au XVIe siècle. Où c'est le vicomte Amadeus de la Carrière qui a inventé la technique du mix en associant deux gramophones en 1878.
A et B,
vous êtes comme ça, vous êtes dans la générosité de la réponse. Néanmoins, vous êtes dans l'erreur, puisque c'était uniquement la réponse B. Oui, le premier technival a eu lieu en 1518 à Strasbourg, mais son origine relève moins de la mobilisation politique que de l'hystérie collective, puisque écoutez, l'histoire est belle. Bon, si vous entendez cette musique, c'est soit que vous êtes à l'anniversaire de Pierre Courade, soit au XVIe siècle en Alsace. Nous sommes donc en 1518 à Strasbourg, et une dénommée Frau Trofea, qui n'avait hélas pas pu prendre connaissance de notre Zoom Zoom Zen sur la parentalité heureuse, jette son bébé dans le Rhin. Et là, elle se met à danser frénétiquement dans les rues de Strasbourg, bientôt 10, puis 20, puis 30 personnes la rejoignent comme tombées en transe eux aussi. Ils seront 400 au bout d'un mois, car oui, pendant un mois, ces possédés vont danser sans discontinuer. Nombre d'entre eux mourront de fatigue, un phénomène mystérieux qui se reproduira une vingtaine de fois au cours des siècles, le dernier en date ayant eu lieu le 19 décembre 2024 au Carmen, avec la double disparition tragique du perronné de notre réalisatrice Alicia Vullo et de la dignité de Pierre Courade. Dignité déjà fortement entamée depuis qu'il s'était abonné au compte Insta Hugo Clément Sport, on le rappelle. Mais attention, on remonte le temps jusqu'aux années 1940. La France de Pétain, qui restera une tache sombre dans notre histoire, sauf évidemment pour le grand-oncle de Quentin, qui y bâtira sa fortune grâce à son opportunisme commercial et son allemand impeccable.
Hélas, le régime
de Vichy n'est pas très porté sur la fête, qui va carrément devenir illégale. D'après vous, pour quelle raison ? Les Allemands confisquent les accordéons pour faire des boutons de manchette avec les touches en nacre. Seule la musique militaire est autorisée dans l'espace public. Ou pas de flonflon si tu pars pas au front.
Ah.
Les Allemands confisquent les accordéons pour faire des boutons de manchette. Ouais. C'est vrai que l'urgence de fabriquer des boutons de manchette pendant la guerre s'impose, effectivement. Non, c'était la réponse. C'est pas de flonflon si tu pars pas au front. Juin 1940, Cyril Lacarrière vient de fêter ses 20 ans et il brûle d'accoster Ginette Tapineau, la plus belle fille de Pontecombo, au bal populaire prévu le 14 juillet. Hélas, le maréchal, qui l'a pourtant toujours soutenu jusque-là, va saper ses espoirs en annulant le bal de Pontecombo et tous les bals populaires. La raison, pas question que ces feignasses qui ont échappé à la mobilisation s'enjaillent et aillent pécho les meufs des soldats partis au front. Même danser pendant les mariages devient interdit. Conséquence, une multiplication des bals clandestins hasta siempre, le piano à bretelles. Des décennies plus tard, Thierry Mariani, dont on a beaucoup parlé dans cette émission, l'oncle de Manon, honneur à l'interdit festif du maréchal avec son célèbre amendement obligeant la déclaration préalable de tout rassemblement de musique amplifiée avec saisie du matériel des contrevenants. Un amendement motivé selon vous par quoi ? La paranoïa sécuritaire post-11 septembre ? Les connexions de tonton Mariani avec le milieu de la nuit sur la Côte d'Azur ? Ou l'envie de se faire un nom en politique ?
C.
B et C.
Je vous propose encore une autre. Les trois, Quentin, effectivement. Bah non, vous ne pouvez pas bien répondre puisqu'on parle de votre oncle. Réponse A, B et C. Surfant sur la peur des attentats, tonton Mariani essaie de glisser en douce son amendement dans la loi sur la sécurité quotidienne, sûrement pour faire régner l'ordre et la morale, mais peut-être aussi un peu pour rendre service aux poteaux qui tiennent des boîtes dans le sud et qui voyaient d'un mauvais œil la concurrence des free parties. Inconnu jusqu'à l'heure, l'oncle de Manon venait de naître sous les spotlights en interdisant à plus de 250 personnes d'écouter du Céron ou du Francky Vincent sans déclaration préalable en préfecture. Mais Mariani, c'est du wokisme sauce aioli à côté du Thatcher, Queen Margaret, comme dit Cyril, car avec le Criminal Justice Bill, elle a interdit l'emploi du mot techno sur les affichages pour contrer l'organisation des rêves à une époque où le portable n'existait pas, la vente de matériel de sonorisation délivrant plus de 75 décibels, ou les rassemblements de plus de 10 personnes en vue d'écouter de la musique répétitive.
C. Oh.
B et C.
Rassemblement.
Je vous pose une question simple. Lequel de vous deux a écouté le doux sasseur de Cyril Lacarrière ?
Mais qu'est-ce qu'il a dit ?
Bah, il a dit précisément là, il a donné la réponse.
Ah, bah, c'est la C.
C'est la C, réponse de Manon Mariani. Oui, en 87, c'est Margaret Thatcher qui va contribuer malgré elle à l'émergence des teufs clandestines en imposant la fermeture des pubs à 2h du mat. Les fêtards s'exportent alors dans des entrepôts désaffectés et découvrent les vertus de la chimie avec l'explosion de l'acid house. C'en est trop pour la première ministre qui sévit alors avec le Criminal Justice Bill. Conclusion, sans Thatcher, pas d'acide, sans acide, pas de rave, sans rave, pas de Daft Punk, sans Daft Punk, pas de Mariani et sans Technival, pas de Ghislain Fontana, notre réalisateur qui, rappelons-le, a été conçu au cul du camion sono de la teuf Trans-Larzac Express. Vive la France, vive la fête et victoire de Manon Mariani. Bravo Manon, la teufeuse, la teufeuse de la bande.
Ça a mis du temps à venir, ils sont endormis.
Oui, ils sont endormis, probablement en régie.
Ils sont en descente tous.
Surtout, non, à mon avis, ils ont donné le nom Manon au hasard.
Il a dû arriver sur le bouton en disant voilà.
La fête et a fortiori les rêves sont-elles politiques ? C'est le thème du livre de notre invité Arnaud Hidelon, Boum Boum, politique du dance floor, paru aux éditions Divergence. Arnaud, un des chapitres du livre s'intitule La rêve, devenir décor dans le capitalisme tardif. Ça veut dire quoi ? Qu'est-ce que vous voulez dire par ce titre ?
Alors, capitalisme tardif, je l'emprunte à Mark Fisher, qui est un critique musical anglais et qui a beaucoup écrit sur les raves et les free parties, et qui nous dit, en fait, il est plus facile d'imaginer la fin du monde que la fin du capitalisme. C'est tellement présent en nous, c'est tellement venu sur l'ensemble des composantes de notre société, que c'est dur de finir avec. Derrière ça, il y a la question aussi du capitalisme cognitif, dont parlent Eva Illouz ou Yves Citon, de se dire même la structure aujourd'hui de nos sentiments, la manière de se rapporter aux gens, on est dans une trame capitalistique. Tout à l'heure, on dit « j'investis sur une relation ». Notamment. Et j'essaye de montrer que comme toutes les contre-cultures, la fête, elle a été récupérée par le capitalisme. Ça, c'est Luc Boutorski et Chapello, l'encaissement de la critique artiste et quelque chose qui vient gratter, quelque chose qui dérange, quelque chose qui critique, bah demain, finalement, c'est intégré, ça devient un produit, comme un nouveau produit.
Mais est-ce qu'il reste des rêves authentiques ? Vous parlez à un moment d'une expérience authentique d'une rêve, ça se passe à Manchester. Comment on distingue aujourd'hui une vraie rêve ?
Ok.
Allez-y, n'ayez pas peur.
Et bien justement, c'est tout le jeu. Alors, authentique, c'est presque un label. Déjà, on pourrait mettre rave authentique sur
Personne n'irait.
Sur une affiche, donc moyen. Mais par contre, oui, cette fête à Manchester, et je parle beaucoup de ça dans le livre, je suis dans un pub, il est 2h du matin, et puis des amis me disent « viens, suis-nous ». Et j'arrive dans le quartier de Strangeways, donc c'est là où naît la révolution industrielle, des entrepôts vides, des moulins vides. Je suis un peu à l'aveugle, je connais pas trop les personnes, je connais pas trop le lieu non plus. Je pousse une porte, il y a une personne, mais qui n'est pas du tout une personne de la sécurité, on monte des étages. En gros, c'est un ancien moulin industriel, il y a deux doigts de s'effondrer en vrai, donc c'est à moitié de l'urbex également. Enfin, waouh! Et j'arrive devant un mur de son. Un mur de son, on voit pas le DJ, il n'y a pas centralité, il n'y a pas quelque chose qui indique que quelque chose se passe à un endroit. C'est pas des lignes les unes derrière les autres, c'est des espèces de centralités mouvantes. Il y a des gens qui dansent en ronde, il y a des gens qui dansent ensemble, il y a des gens qui sont devant le système son. Et en fait, il y a une infrastructure qui n'est pas là. Dans le sens où il n'y a pas de bar, c'était bring your own booze, donc tout le monde avait pris des choses, moi j'avais rien pris, mais du coup bah les gens venaient me prêter des choses, donc il y avait une espèce de circulation d'entraide. Donc il n'y avait pas de bar, il n'y avait pas de sécurité, mais par contre il y avait ce que j'appelle dans le livre un commun du soin. Il y avait une attention de chacun chacune à ce que tout se passe bien au niveau individuel et au niveau collectif. On se check les uns les unes les autres. Ah, t'es trop fatigué. Ah, t'as trop dansé. Ah, toi, t'as peut-être besoin d'eau. Ah, ce mec, il a un regard un petit peu bizarre sur cette fille-là. Donc, qu'est-ce qu'on fait, etc. Et collectif aussi, avec une espèce de prise en charge de la bonne continuation de toutes les composantes de l'ambiance de la fête, pour qu'elle ne vienne pas s'estomper. Et pour moi, c'est une communauté momentanée, des personnes qui ne se connaissent pas, qui n'ont pas forcément les mêmes appétences, qui n'ont pas forcément les mêmes identités géographiques ou les mêmes identités tout court, mais une ressource, cette fête, cet espace-temps, cette ambiance.
Et ça existe beaucoup, ce genre d'ambiance, pardon, parce que j'ai pas l'impression.
Absolument, oui. C'était cette espèce d'épiphanie à Manchester. Et moi, je l'ai vécu dans énormément de lieux.
Vous l'avez revécu ensuite.
Même en France?
Ouais, complètement. Complètement, je pourrais pas forcément vous dire les noms ou les collectifs.
Parce que c'est un peu secret, en fait. La vraie rave, elle se mérite, quoi.
Mais il y en a plein. Il y en a plein et faut les trouver, faut les chercher. Bon, on n'a pas à chercher très loin non plus.
Il y aura peut-être des indices dans votre livre. Boum, boum, politique du dance floor. Vous écoutez France Inter, il est 16h46. Manon, votre haleine porte encore les stigmates d'un week-end barcelonais particulièrement agité, mais votre cerveau...
Je me suis brossé les dents depuis quand même.
J'espère
quand même.
Mais une seule fois, et puis ça remonte quand même le week-end. Bon, bref, votre cerveau, lui, est parfaitement opérationnel. Vous nous indiquez la personne à suivre.
Je vous présente Barbara Butch. Elle a 43 ans, elle est française et elle est une figure emblématique de la scène nocturne queer.
La lune va enfin se lever, les créatures s'en vont danser. C'est l'heure de la noche vita, et moi j'aime ça, et moi j'aime ça.
Elle commence sa carrière de DJ au début des années 2000 à Montpellier. Elle prend le pseudo de Barbara Butch en référence à la femme de George W. Bush Senior, Barbara Bush. Bush devient Butch, un terme très populaire chez les lesbiennes qui sert à définir celles qui adoptent les codes dits masculins. Et c'est dans le milieu queer qu'elle va commencer à se faire un nom, notamment à travers des lieux parisiens assez emblématiques comme le Rosa Bonheur, la Mutinerie ou les Souffleurs. En plus de ces DJ sets, Barbara Butch est aussi une militante très engagée pour les droits LGBTQIA+, mais aussi contre la grossophobie, qui est devenue l'un de ses principaux combats. En 2020, elle fait la couverture de Télérama pour dénoncer ce fléau. Nue, le bras sur sa poitrine, la photo est censurée par Instagram et son compte désactivé pendant un temps. Mais il en faut plus pour arrêter Barbara Butch. Pour elle, je cite, « la fête est politique, on lâche prise avec la société ». C'est pour ça que, pendant le confinement, elle organise des soirées virtuelles pour que les gens continuent à faire la fête malgré tout. Le concept s'appelle « l'appart chez moi » et la DJ mixe en direct. Le but est que les participants se filment aussi pendant le set et que les gens partagent un moment ensemble. Aujourd'hui, Barbara Butch est devenue une référence dans le monde de la nuit queer. Cet été, elle a participé à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris. C'était elle au centre du fameux tableau festivité. Couronne sur la tête, elle était trop belle. Tableau que certains ont pris pour une parodie de la scène. Résultat, Barbara Butch a été victime de cyberharcèlement. Elle a reçu des dizaines de milliers de messages de haine. Face à cette situation, elle a déposé une plainte. Elle a exprimé évidemment sa détermination à poursuivre son combat pour la tolérance et pour l'acceptation.
Merci Manon. Arnaud Hidlon, on parle de fête politique cet après-midi. Le milieu queer, c'est aujourd'hui un des milieux les plus politisés, niveau soirée.
Ouais, Queer communauté LGBTQI+, complètement. Il y a une forme communautaire d'auto-organisation, justement d'une réflexion sur ces safer spaces, sur comment améliorer les contextes à la fois d'accueil de public, d'accueil des artistes, de respect de chacun chacune. À l'intérieur de ça, il y a des réflexions profondes, il y a des process qui sont mis en place et il y a un échange de pratiques entre beaucoup de collectifs. Donc oui, je pense que elles sont vraiment à la pointe.
France Inter, Zoom Zoom Zen. Mathieu Noël.
Alors qu'on zoome aujourd'hui sur le phénomène des rave parties, je vous présente celui qui avait été viré du lycée de Bétarame pour avoir organisé une rave dans la basilique Sainte-Bernadette de Lourdes. Ils ont bafoué le sanctuaire de Jésus, souillé la mémoire de Bernadette Soubirous, ils méritent d'être empalés sur de très gros pieux, avait déclaré le toujours pondéré Abbé Chibrard. La tentation était trop forte, la basilique Sainte-Bernadette ressemble à un zénith, avait plaidé pour sa part Pierre Courade. Pierre, tout ça est loin aujourd'hui, vous avez échappé aux pieux. Quelques heures de travaux d'intérêt général ont fait l'affaire et vous êtes en mesure de nous résumer tout ce qu'on s'est dit en une minute chrono, pas plus.
Et aujourd'hui, on a parlé des raves et plus particulièrement des nouvelles raves, celles qui sont encore underground, pas des raves marketées. Pour reprendre votre image, Jean-Mathieu, c'est comme si on avait parlé des raves de la basilique Sainte-Bernadette, mais pas dans la nef principale, celle qui se passerait dans la crypte.
Oh,
je ne demande pas à notre invité s'il connaît ce genre de fête, lui qui écume toutes les fêtes parisiennes, et qui réussit néanmoins à en tirer un message sociologique dans son livre Boom Boom. Je vous rassure, sa thèse est beaucoup plus étayée que le titre de son livre ne le laisserait penser. Arnaud Hidlon estime donc qu'une vraie rave est un endroit politique, celle qui dépasse les clivages et fait fi du pouvoir en place, une fête hors système vue comme une déviance ou une dissidence par les politiques conservateurs, parmi eux évidemment l'oncle de Manon, Thierry Marnen.
Oh, c'est difficile.
C'est très difficile. Ouais. Je reviens pas de Berlin pourtant. Parmi eux donc il y a l'oncle de Manon, Thierry Mariani, qui a proposé d'interdire les raves au début des années 2000 sans autorisation. C'était quelques années après Margaret Thatcher, premier émoi sans acide de Cyril. Depuis, la fête est en danger d'après notre invité. Si les rave parties sont plus ou moins rentrées dans le rang, les free parties gardent elles un message politique, un mode de vie, un territoire, un moment, une communauté momentanée, loin des mascarades carnavalesques qui valident au fond le pouvoir établi.
Magnifique, wow. Pierre Courade, même si ça a bafouillé un petit peu.
Et Thierry Mariani n'est pas mon oncle. On le reprécise.
Mais maintenant, je vous pose une question. Est-ce que vous en êtes sûr?
Oui. Certaine.
Est-ce que vous avez remonté votre arbre généalogique?
À 100%, oui.
On lui passera un coup de fil quand même, pour être bien sûr à l'occasion.
On va l'inviter.
Merci Pierre. Et allez, pour le plaisir.
C'était génial ce remix.
C'est un remix que j'ai dégoté rien que pour vous. Ça aurait été tellement bien dans la basilique de Lourdes.
À mon prochain anniversaire, je dis.
Ah bah, j'ai hâte d'y être. Oh. Rosa Burstein, vous, c'est pas trop votre truc, hein, les rave parties. On vous imagine plus dans des soirées type rallye parisien.
Non, mais je rave, Mathieu. Je rave.
Oh non.
J'ai jamais fait de soirée rallye. Ah. Dommage, j'aurais pu y rencontrer mon futur époux qui ne serait pas SDF, intermittent du spectacle comme l'actuel. Par contre, oui, au lycée, je me suis retrouvée à des fêtes de gosses de riches à Vavin avec en fond. Ça prenait de la coke, tu pouvais croiser Juan Branco et Gabriel Attal dans une skinny, se jeter des flûtes en verre. Et toutes les meufs kiffaient sur Louis qui ressemblait à Ryan Philippe dans Sex Intention et disaient tout le temps « ça passe crème ». Il sortait avec Morgane, il s'était pécho après le catéchisme. Pour une fois, les deux étaient mineurs et consentants. Moi, à 17 ans, j'étais amoureuse d'un gars qui faisait des graffitis Gare de Lyon. Je mettais mini jupe résille et me trémoussais sur
« elle te rend ding 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 quand elle a son poum poum chante ».
En fait, je me suis toujours laissée entraîner dans les fêtes des mecs que je kiffais, donc ça a pu passer par quand je sortais avec mon red skin qui finirait flic.
C'est qui ça?
Quand j'étais en cours de théâtre, il faut savoir que les théâtreux sont en général les plus gros ringards. L'adrénaline, ils l'ont sur scène, donc pas de sortie en club. Ils te récitent bourré du Racine sur la table de la cuisine, puis la soirée finit en débat sur Pasolini, parce que le divertissement, c'est pas de l'art! T'as intérêt à t'être bien murgé la gueule. L'une de mes dernières grosses fêtes correspond à l'un de mes derniers gros crushs. Pendant les confinements, je suis tombée amoureuse de Seb, hacker anarchiste, passant sa vie entre Paris et Berlin. Enfin, il était souvent derrière son écran. Ça se trouve, c'était juste à Massy Palaiso. Je comprenais pas bien ce qu'il faisait, mais ça avait l'air d'être un génie du web. Déjà parce qu'il avait les cheveux très gras. Tu les pressais, t'avais de l'huile de geek. Et puis, il était parano, incompris, un peu comme mon chat Minou, à la fois doux et bipolaire. Il était anticapitaliste, mais voulait devenir youtubeur. Il avait réussi à hacker Instagram, puis passer sur Combini pour alerter sur les risques du paiement sans contact. Moi, je voulais un contact qui laque mon cul, ouais. On avait fini par se voir. Seb m'avait invité à une soirée électro à la station Gare des mines, mais on s'était retrouvés avant chez lui pour prendre de la MD avec deux de ses potes que je connaissais pas, une petite blonde chétive et un grand brun sûr de lui. Le grand brun, après avoir bossé dans le tourisme, s'était reconverti dans la menuiserie et pouvait même faire des tapis avec des motifs gaming, ou avec le yin et le yang. Il nous avait montré des photos, on était là « Waouh !» La MD commençait à faire effet. Direction la teuf, je danse devant Seb en lui faisant les yeux doux, prête à lui promettre que je pourrais désormais faire tous mes spectacles en direct sur Twitch s'il trouve ça plus cool. Quand d'un coup, il se met à rouler des pelles à la petite blonde. Je les fixe dépité, il gueule sur la musique. C'est ma copine ! Je vais vomir dans les toilettes. Je veux faire des câlins aux inconnus, le grand brun arrive à ma rescousse et me sort cette phrase de connard. J'ai une meuf, mais je t'offre mes bras. Oh. En vrai, il était prêt aussi à m'offrir sa bite dans le package. Mais je suis déjà complètement en bad. J'ai l'impression que tous les gens qui dansent me jugent et savent que j'écoute en boucle Joe Dassin chez moi, que je veux changer ça par ça.
Il n'y a pas de honte à être mendiant de l'amour. Moi, je chante sous vos fenêtres chaque jour. Donnez.
Mendiante de l'amour pour sûr, mais reconnaissante à la fête pour les souvenirs de loose ou de joie qu'elle nous laisse. Soyons tous libres et heureux. Voici mon rêve.
Ah, il y avait deux chansons que je connaissais dans cette chronique. Hein, effectivement, Les Comédiens et Enrico Macias. Merci Rosa.
On l'embrasse.
Évidemment. Sur France Inter.
Je rappelle votre spectacle dédoublé au Théâtre de l'Œuvre à Paris ainsi qu'un tournée partout en France. Merci Rosa Burstein. Merci Arnaud Hidelon. Et en ce qui me concerne, je vous dis évidemment à bientôt, vu que je suis aussi oiseau de nuit. Il est évident qu'on va se retrouver très bientôt. Je rappelle
oiseau
votre livre.
Boum boum.
Oiseau de nuit, comme disent ceux qui le sont d'ailleurs. Boum boum. Politique du dance floor qui est sorti mi-janvier aux éditions Divergent.
Zoom zoom zen.